Naturellement, Danforth et moi avons étudié avec le plus grand intérêt et une attention particulièrement anxieuse tout ce qui avait rapport aux environs immédiats du lieu où nous nous trouvions. Ce type de documentation locale était présent en abondance et au rez-de-chaussée de la ville, nous avons eu la chance de tomber sur une maison extrêmement tardive dont les murs, bien qu'endommagés par une crevasse qui s'était formée tout près de là, contenaient des sculptures d'un style décadent qui relataient l'histoire de la région bien au-delà de l'époque de la carte du Pliocène qui nous avait fourni notre dernier aperçu général sur ce monde préhumain. C'est le dernier endroit que nous ayons examiné en détail car ce que nous y avons trouvé nous a donné un nouvel objectif immédiat. Certainement, nous étions dans un des lieux les plus étranges, les plus bizarres et les plus effrayants de cette planète. De tous les pays existants, c'était certainement le plus ancien et nous nous sommes peu à peu convaincus que ce hideux haut plateau devait bel et bien être le fabuleux et cauchemardesque plateau de Leng, dont même l'auteur fou du Necronomicon répugnait à discuter. La chaîne de montagnes était incroyablement longue, commençant aussi bas que la terre de Luitpold, sur la côte de la mer de Weddell, pour traverser tout le continent. La partie la plus haute s'étirait en un immense arc de 82 degrés de latitude et 60 degrés de longitude est, jusqu'à 70 degrés de latitude et 115 degrés de longitude est. Avec sa face concave tournée vers notre camp et son extrémité du côté de la mer située dans la région de cette longue côte gelée dont Wilkes et Morson avaient aperçu les collines depuis le cercle polaire antarctique. Et pourtant, des exagérations naturelles encore plus monstrueuses semblaient toutes proches. J'ai déjà mentionné que ces pics sont plus élevés que l'Himalaya, mais les sculptures m'interdisent de déclarer qu'ils sont les plus hauts sommets au monde. Cet honneur sinistre est certainement détenu par quelque chose que la moitié des sculptures ne représentait quasiment pas, tandis que d'autres abordaient le sujet avec une répugnance et une inquiétude évidentes. Apparemment, il y avait une partie de cette terre antique, la première à avoir émergé des flots après que la terre ait expulsé la lune et que les anciens soient descendus des étoiles, qui avait fini par être traitée comme une région interdite, porteuse d'une malignité vague et innommable. Les villes qu'on y avait édifiées s'étaient écroulées bien trop rapidement ou avaient été retrouvées brusquement désertées. Puis, à l'époque comanchienne, lorsque les premières grandes convulsions terrestres avaient ravagé la région, une terrifiante chaîne de pics avait subitement jailli vers le ciel, provoquant moult bruits et chaos. Et c'est alors que la Terre avait reçu ses montagnes les plus grandes et les plus terribles. Si l'échelle des sculptures était correcte, ces choses abhorrées devait mesurer plus de 12 000 mètres de haut, bien plus même que les effrayantes montagnes hallucinées que nous avions traversées. Apparemment, elles s'étendaient de 77 degrés de latitude, 70 degrés de longitude est, à 70 degrés de latitude et 100 degrés de longitude est, à moins de 500 km de la cité morte, si bien que sans cette brume opalescente, nous aurions dû apercevoir leur sommet redouté au loin vers l'ouest. De même, leur pointe nord devait être visible depuis la côte longeant le cercle antarctique sur la terre de la reine Mary. À l'heure de leur décadence, certains des anciens avaient dédié d'étranges prières à ces montagnes, mais pas un seul n'avait osé s'en approcher ou tenter de deviner ce qui se trouvait au-delà. Nul être humain ne les avait jamais contemplés, et tout en étudiant les émotions retranscrites dans les sculptures, j'ai prié pour que nul ne le fasse jamais. Il y a des collines le long de la côte, les terres de la reine Mary et de l'empereur Guillaume, qui les protègent des regards, et je remercie le ciel que personne n'ait jamais réussi à débarquer pour en faire l'ascension. Je suis moins sceptique que je ne l'étais à propos des contes et des peurs ancestrales, et aujourd'hui, je ne ris plus du sculpteur préhumain qui, apparemment, croyait que la foudre s'arrêtait parfois sur chacune de ces sinistres crêtes et que, durant la longue nuit polaire, une lueur inexpliquée brillait depuis l'un de ces pics. Il y a peut-être une signification très réelle et très monstrueuse à ce qui est murmuré dans les manuscrits pnakotiques au sujet de Kadath dans le désert glacé. Mais la zone où nous nous trouvions n'était pas moins étrange, bien qu'il n'y plane pas une malédiction sans nom. Peu après la fondation de la cité, les grandes chaînes de montagnes étaient devenues le siège des principaux temples, et de nombreuses sculptures montraient les tours grotesques et fantastiques qui avaient percé le ciel aux emplacements où aujourd'hui nous n'avions pu voir que des cubes et des remparts accrochés aux pentes. Au cours des âges, des cavernes étaient apparues et avaient été travaillées pour servir d'annexe aux temples. À des époques plus tardives encore, toutes les veines calcaires de la région avaient été dissoutes par les eaux, si bien que les montagnes, les contreforts et les plaines en contrebas s'étaient retrouvées, sillonnées par tout un réseau de cavernes et de galeries reliées entre elles. Des sculptures très détaillées relataient l'exploration de ce monde souterrain, débouchant sur la découverte d'une mer stygienne, sans soleil, nichée dans les entrailles de la terre. Cet immense golfe ténébreux avait sans aucun doute été creusé par le grand fleuve qui descendait de ces horribles montagnes de l'Ouest et dont le cours, autrefois dévié par la chaîne de montagnes des Anciens, suivait cette dernière pour finalement se jeter dans l'océan Indien entre les terres de Bod et de Toten, sur la côte de la terre de Wilkes. Peu à peu, le flot avait rongé la base calcaire des collines, jusqu'à ce que ses courants atteignent les cavernes profondes et se joignent aux eaux souterraines pour creuser un gouffre encore plus important. Finalement, toute l'eau s'était déversée dans les collines creuses et l'ancien lit du fleuve s'était retrouvé à sec jusqu'à l'océan. L'essentiel de la cité telle que nous l'avions trouvée avait été construit sur cet ancien lit. Comprenant ce qui s'était passé, les anciens avaient exercé leur sens artistique et gravé en pylônes ornementés les contreforts entre lesquels le vaste courant commençait sa descente dans les ténèbres éternelles. Ce fleuve, jadis traversé par bon nombre de nobles ponts de pierre, était certainement celui dont nous avions suivi le cours depuis notre aéroplane. Sa position dans différentes images sculptées de la cité nous aidait à nous orienter dans le panorama tel qu'il avait dû être à différents stades de sa très longue histoire, si bien que nous avons pu tracer rapidement, mais soigneusement, une carte des éléments les plus importants, les parcs, les bâtiments principaux et ainsi de suite, afin de faciliter toute exploration ultérieure. En peu de temps, nous avons pu reconstituer en imagination l'ensemble tel qu'il était 1 million, 10 millions ou 50 millions d'années plus tôt, car les sculptures nous indiquaient avec précision à quoi ressemblaient les bâtiments, les montagnes, les parcs, les banlieues, les paysages et la végétation luxuriante du tertiaire. Ce devait être un spectacle d'une grande beauté mystique. Et alors que je l'imaginais, j'en oubliais presque le sentiment d'oppression glaciale que l'âge inhumain, l'immensité, l'isolement, la mort et la pénombre de cette cité avaient fait naître en moi. Et pourtant, selon certaines gravures, les citoyens de cette ville avaient eux-mêmes connu les effets d'une telle terreur, car une scène récurrente y montrait des anciens terrifiés, reculant devant quelque objet jamais montré, trouvé dans le grand fleuve et que celui-ci avait rejeté après un long voyage à travers les forêts ondulantes de Sika depuis les horribles montagnes de l'Ouest.